les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Comment les arts racontent-ils, imaginent-ils ou contestent-ils les relations entre liberté fondamentale et contrainte écologique ? Dans ce deuxième épisode, Jean-Baptiste Villerode, chargé de recherche FNRS en philosophie à l'Université de Namur en Belgique, interroge Igor Krotlinka, maître de conférence en philosophie à l'Université de Picardie, membre junior de l'Institut universitaire de France, à propos du roman de Romain Gary, Les Racines du Ciel.
Bonjour Igor Krotlinka. Cette série de podcasts est consacrée au rapport entre écologie et liberté dans l'art et la littérature contemporaine. Justement, vous avez fait paraître en 2025 chez Gallimard un ouvrage intitulé « Romain Gary, de l'humanisme à l'écologie », ainsi qu'un commentaire du roman aux presses universitaires de France intitulé « Romain Gary, antifascisme, humanisme et écologie ». Plus récemment, vous avez aussi préfacé un recueil de courts essais théoriques de Gary sur l'écologie. Alors à partir des romans de Romain Gary, et notamment des Racines du Ciel, vous vous demandez comment la littérature peut nous aider à penser aujourd'hui la question qui nous préoccupe aujourd'hui, celle de l'écologie et de la liberté. Et pour commencer cette discussion, je voudrais vous demander si vous pouviez présenter en quelques mots Les Racines du Ciel pour les personnes qui ne l'auraient pas lu.
Alors ce roman qui a été publié en 1956 se déroule en 1953. L'action se passe dans ce qui s'appelle à l'époque l'Afrique équatoriale française, donc à la fin de la période coloniale, au moment où doit se tenir au Congo une conférence internationale sur la protection de la faune et de la flore. Et à travers le point de vue de différents personnages, le roman raconte la lutte que mène notamment Morel, un ancien prisonnier politique dans les camps de concentration nazis, qui est accompagné d'une bande de marginaux profondément désillusionnés par leur expérience de la guerre. Et le roman raconte la lutte que Morel donc mène avec eux pour protéger les éléphants d'Afrique. La lutte qu'il mène d'abord en tentant de faire signer une pétition, puis en menant des expéditions punitives contre les chasseurs d'éléphants, et enfin en s'alliant avec un leader indépendantiste africain qui veut récupérer la lutte de Morel à son profit. Et d'une certaine manière, dans le roman, toutes ces actions échouent. D'abord parce qu'en dehors de la bande de Morel, tout le monde considère que le combat des éléphants est soit absurde et misanthrope, soit le symbole d'un tout autre combat. Ce qui fait que le roman pose en fait la question de la place du combat écologiste, en l'occurrence du combat en faveur des éléphants, et ça dans un contexte géopolitique qui est dominé par des conflits de grande ampleur, par les suites de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, par la guerre froide aussi, et également par les luttes de décolonisation, qui, dans le roman, sont tout sauf un arrière-plan historique, mais plutôt une dimension du problème lui-même. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, on pourrait dire que la situation n'est pas si différente, puisque c'est plutôt les tensions géopolitiques actuelles qui relèguent les problèmes écologiques à l'arrière-plan.
Donc dans ce contexte géopolitique que vous avez rappelé, je voudrais vous demander quelle place Gary accorde aux luttes de décolonisation, c'est-à-dire à des luttes pour la liberté et l'indépendance politique des peuples opprimés. Est-ce qu'il n'a pas un rapport ambigu à ces luttes ?
Alors vous avez raison, en tout cas c'est une image qui lui colle à la peau. Mais pour ma part, je dirais plutôt les choses ainsi. Alors je dirais que Gary n'avait pas un rapport ambigu au principe de la décolonisation. Au contraire même, parce qu'il estime que la colonisation appartient à un âge révolu, à l'âge des nationalismes et des impérialismes. En revanche, il est vrai que Gary trouvait que le processus de décolonisation, lui, se faisait de manière ambiguë. Alors pourquoi est-ce qu'il estimait qu'il se faisait de manière ambiguë ? Alors d'abord, il faut rappeler, je crois, que Gary a observé ce phénomène depuis un poste tout à fait particulier. Celui de porte-parole de la délégation française aux Nations Unies. Et il a raconté, d'ailleurs, avec beaucoup d'humour et d'amertume aussi, toutes les contorsions qu'il a dû faire pour incarner la position officielle de la France vis-à-vis de ses colonies, une position à laquelle il n'adhérait pas, ou pas toujours. Mais il a aussi raconté l'attitude et les discours de ses leaders indépendantistes avides de pouvoir, qui avaient pour seul programme, au fond, un progrès fondé sur le nationalisme politique et le développement industriel, c'est-à-dire un programme qui prend pour modèle cet Occident colonial que pourtant il rejetait. Au fond, ce que dénonce Gary, ça n'est jamais la décolonisation en tant que telle. Ce qu'il dénonce, je dirais que c'est plutôt le remplacement de la colonisation européenne par deux autres formes de colonisation. D'abord par ce qu'il appelle la colonisation intérieure. Et la colonisation intérieure, c'est une colonisation où, au nom du nationalisme et de l'industrialisation, des tyrans impitoyables, je cite Gary, disposent des peuples au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et il craint le remplacement de la colonisation européenne aussi par ce qu'il appelle une nouvelle colonisation extérieure, une colonisation capitaliste, avec, je cite encore Gary, l'invasion d'une culture de production de masse, l'uniformité des façons de penser, de se conduire, de parler et de s'habiller. Bref, en fait, vous voyez que Gary voit des peuples pris en étau entre trois formes de colonisation, européenne, intérieure, capitaliste, et il redoute qu'elle donne lieu à de nouvelles formes de totalitarisme. Et c'est vrai que si l'histoire contemporaine de l'Afrique ne se résume fort heureusement pas à cela, on ne peut pas dire non plus que l'avenir lui ait donné complètement tort. Au fond, son rapport à la décolonisation se présente, je crois, comme une critique de tous les totalitarismes au nom d'une certaine conception de la liberté, et une liberté qui s'incarne étrangement, paradoxalement, dans la figure des éléphants. Pourquoi ? Parce que les troupeaux d'éléphants qui courent dans la savane, dans le roman, expriment une résistance à toutes ces formes de totalitarisme qui oppriment leur peuple au nom de ce que Gary appelle, ironiquement, la glorieuse marche en avant du progrès.
Et c'est là, si je vous comprends bien, qu'intervient son rapport à l'écologie ?
Je crois que c'est exactement à cet endroit-là qu'intervient l'articulation, disons, entre la politique, la question de la liberté politique et la question écologique. Parce que si Gary s'en prend au mythe occidental du progrès, il n'y a chez lui aucun désir de retour à l'état de nature, c'est-à-dire aucune forme de primitivisme. Et je crois que c'est très important parce que Gary, dans son roman, dénonce en même temps les deux mythes. Le mythe du progrès et le mythe de l'Afrique archaïque ou sauvage. Et dans certaines pages du roman, d'ailleurs, je crois que Gary anticipe très bien l'écologie décoloniale qui dénoncera plus tard ce primitivisme des mouvements écologistes des pays du Nord, des pays occidentaux. Par exemple, je pense à un passage du roman où Gary fait dire à l'un des personnages africains « Nous en avons assez de servir de jardin zoologique au monde, de délassement à l'usage des occidentaux blasés par leurs gratte-ciels et leurs automobiles, qui viennent ici pour se retremper dans le primitif et s'attendrir devant notre nudité et nos troupeaux. » En fait, dans le roman, vous voyez que les éléphants sont des figures anachroniques, à contre-temps. Ils font obstacle au progrès de la civilisation, mais sans incarner pour autant une quelconque nostalgie de l'état de nature. En somme, ils incarnent une sortie hors de l'alternative nature ou civilisation. Ils indiquent une autre voie, et une voie qui vaut peut-être aussi pour les peuples colonisés.
Oui, c'est d'ailleurs un des ressorts dramatiques du roman, c'est-à-dire que les éléphants y sont interprétés de deux manières contradictoires. Tantôt de manière métaphorique, comme une image de la liberté politique et des droits de l'homme, la protection de la nature paraissant n'être qu'un prétexte pour parler de l'humain. Mais aussi dans d'autres passages du roman, Morel soutient qu'il veut défendre les éléphants et rien d'autre, et il ne s'agit que de la nature. Alors, comment expliquer cette tension ?
C'est sûr, en tout cas, qu'il y a une tension qui est difficile à lever dans le roman. Morel, et on pourrait dire Gary aussi d'ailleurs, a l'air de tenir à la possibilité de ces deux lectures simultanées, hein, une lecture métaphorique et une lecture littérale. Alors, si on essaye de comprendre en quoi il n'y a pas de contradiction entre ces deux points de vue, je crois qu'il faut en revenir à la manière dont les éléphants apparaissent concrètement dans le roman. Et comment est-ce qu'ils apparaissent? Ils apparaissent sous la forme d'un troupeau qui court dans la savane et qui renverse tout sur son passage. C'est-à-dire comme une force naturelle qui est à la fois archaïque et irrésistible. Une force archaïque, c'est-à-dire une force qui vient d'un passé lointain et qui entrave la marche en avant du progrès. Mais une force irrésistible, parce qu'elle exprime une aspiration inextinguible à la liberté et une aspiration qui est encore présente en l'homme. Et si les éléphants peuvent être pris comme une métaphore de la liberté humaine, comme une métaphore des droits de l'homme, c'est parce que cette liberté, ces droits, parce que ces aspirations ont fondamentalement, pour Gary, un ancrage vital. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait dire la même chose de toutes les espèces ou de tous les écosystèmes que l'on protège au nom de l'écologie. C'est-à-dire qu'en les protégeant, on protège toujours autre chose en même temps. On pourrait même dire qu'en défendant la nature, c'est toujours la nature qui se défend à travers nous.
Avec les soulèvements depuis Notre-Dame-des-Landes, on a déjà obtenu d'autres reculs sur les bassines, peut-être en ce moment même sur la 69. Et les soulèvements sont un peu une sorte de liant, de plein de petites sources comme ça d'espoir qui nous permettent de sortir de l'impuissance collective dans laquelle la répression et le mépris politique auquel on fait face nous plongent depuis une vingtaine d'années.
Ce pourquoi politiquement c'est intéressant, je pense, c'est que ça met en commun des existences qui sont différentes.
Collectivement, on a eu une puissance d'agir qui nous donne de la joie. Et bon, c'est plutôt ça l'écologie, quoi.
On a eu l'impression qu'on donnait un peu des armes aux arbres pour se défendre.
À 11h du matin, t'as les chapiteaux qui sont déjà montés. C'est incroyable ce qui se passe.
Pour nous, c'est important d'emmener les enfants parce que c'est leur avenir et que de leur montrer un peu ce qui se passe.
Ils ont enlevé des collines entières. Ils ont fait des trucs que tu penses même pas que c'est possible, en fait.
Et puis maintenant, on fabrique la neige, quoi. Donc, est-ce que c'est pas une limite qui s'impose à nous et qu'il faut refuser?
On en arrive à dire qu'il n'y a plus que la désobéissance, parce que moi, je suis de ceux qui peuvent dire on a tout essayé.
Donc on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce du documentaire Soulèvement, qui est sorti récemment, qui portait sur les soulèvements de la Terre. Dans cet extrait, il est question de désobéissance civile pour les luttes écologiques. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans Les Racines du Ciel, à travers le combat que mène Morel, quel est le rapport au droit, à la loi, c'est-à-dire aussi bien à la place de l'illégalisme?
C'est vrai que c'est une question importante dans le roman et d'ailleurs c'est une question qui a rarement été évoquée à propos des Racines du Ciel. Et c'est d'autant plus étrange que les trois parties du roman que j'ai évoquées tout à l'heure mettent en scène une forme de progression vers des modalités d'action de plus en plus illégales. Jusqu'à des modalités d'action que certains pourraient appeler aujourd'hui et condamner sous le nom d'écoterrorisme. Pour le redire en deux mots, le roman commence avec la tentative de faire signer une pétition pour attirer l'attention publique mondiale sur le sort des éléphants d'Afrique. Il se poursuit avec des humiliations publiques non violentes de chasseurs d'éléphants et il se termine avec le rapprochement de Morel avec Waitari, donc qui est ce leader indépendantiste africain qui utilise la violence et qui veut récupérer à son profit l'aura dont commence à jouir le combat de Morel. Et donc, dans tout le roman, il y a une sorte d'évolution, de progression vers la violence politique. Simplement, je crois que la tonalité générale du roman a quelque chose de tragique à cet égard, et que le roman ne justifie jamais la violence. La violence que Gary a d'ailleurs, pour sa part, toujours rejetée. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de justification de la violence? Parce que le roman met en scène le fait que la lutte politique doit nécessairement être découplée de toute cette imagerie viriliste de la violence guerrière, de la domination, qu'elle doit être séparée de ce mythe de la puissance qui semble à Gary être une impasse complète. Et celui qui incarne cette puissance virile et guerrière, ça a été Ernest Hemingway, notamment, il en a été le symbole pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est pourquoi on voit émerger, à contrario, dans Les Racines du Ciel, des thématiques qu'on pourrait dire féministes, du moins un appel à renoncer à ces valeurs masculines, viriles, de domination et de puissance. Et toute cette thématique va se développer dans les romans suivants. Dans ce roman, en tout cas, Plutôt que l'opposition entre légal et illégal, je dirais que ce qui préoccupe Gary, c'est surtout la possibilité d'un combat politique qui soit public, qui soit mobilisateur et qui soit non violent. Et je crois que ça le rapprocherait plutôt du problème de la désobéissance civile, pour lequel, on le sait, on l'a entendu dans l'extrait, il y a depuis quelque temps un regain d'intérêt dans les mouvements écologistes et notamment au soulèvement de la Terre.
Et est-ce que vous diriez qu'il y a donc un lien entre ce refus de la violence viriliste dans la désobéissance civile et l'importance que Gary accorde aux émotions dans les mouvements écologistes ?
Certainement, ouais. Je crois que c'est le cas parce que Gary ne cessera de répéter que la raison ne suffit pas à opérer un changement radical, qu'il faut nécessairement lui associer l'émotion. Il faut lui associer l'émotion parce que la raison, en fait, nous ramène toujours à notre intérêt. Elle nous ramène toujours aux privilèges que nous accordons à notre espèce humaine, même quand cela implique indirectement de protéger d'autres espèces que la nôtre pour mieux assurer notre propre survie. Autrement dit, pour Gary, la raison est fondamentalement anthropocentrique. En revanche, l'émotion est capable de nous décentrer. Elle est capable de nous faire sentir ce qui nous relie directement à d'autres espèces. Elle est capable de nous faire éprouver, en fait, quelque chose de réellement commun. Et si Gary fait une grande place à ces émotions qui expriment la tendresse, le besoin de protection, le souci de l'autre, toutes ces émotions qu'on a associées traditionnellement au féminin, je crois que c'est parce qu'il y voit un contrepoids important à la raison. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui le rapproche d'une certaine manière de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du care. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, alors sans mauvais jeu de mots, il admire Rachel Carson. Parce que Rachel Carson, dans son livre « Printemps silencieux », qui est un des livres pionniers de l'écologie, Rachel Carson, à ses yeux, a opéré une parfaite combinaison de raison et d'émotion. Et de la même manière, je crois que c'est ce que Gary essaie de faire, aussi bien dans ses textes romanesques que, et c'est plus visible encore, dans ses textes théoriques sur l'écologie.
Alors justement, comment est-ce que s'articule chez lui l'écriture romanesque et l'écriture non romanesque ? Et comment envisagez-vous une lecture philosophique de ces modes d'écriture ?
Bon, pour moi, la chose, en fait, est assez simple. Parce que c'est Gary qui s'est mis à faire de la théorie d'abord. Il s'est mis à en faire, on pourrait dire, contraint et forcé. Alors, c'est évident que Gary ne prétend pas être philosophe, mais je crois que néanmoins, il a posé un problème philosophique fondamental de l'écologie. C'est celui de savoir comment articuler la défense de l'humanisme et la protection de la nature. C'est celui de savoir comment la cause de l'humanité et la cause des non-humains peuvent fusionner. Et je crois pour ma part que les racines du ciel sont une réponse à cette question, et même une réponse affirmative.